Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Alors, tu t'es décidé pour les vacances? Mer ou montagne?
Mais je sais pas.
Casquette ou bonnet?
RTL.
Maillot de bain ou combi?
Oui, mais c'est mon horoscope. Il me prédit des galères pour les deux semaines à venir, alors j'hésite.
Alors, entorse ou tourista?
Ben là, j'hésite. C'est sûr que les deux sont tentants.
C'est tentant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les vacances selon Samantha, entorse ou tourista, Thomas?
J'ai choisi, moi.
Si vraiment, faut choisir. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les vacances? C'est la question que l'on pose ce soir à notre invité, le sociologue Jean Viard. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Grâce aux vacances, les vacances sont plein de bénéfices, on le sait, plein de bienfaits. On fait plus l'amour?
Absolument, chère madame. Ben, on a démocratisé l'érotisme, quoi. Il faut bien dire les choses comme elles sont. En moyenne, avant 14, on fait peut-être 1000 fois l'amour dans une vie pour faire 8 enfants. Nous, on dit entre 6 et 7000 fois pour en faire 2. Ça fait quand même un effondrement de la productivité, mais c'est
au-delà pas du plaisir.
Pas du plaisir. Non, mais au-delà de ça, c'est ça le temps libre, si vous voulez. C'est la démocratisation de ce que faisaient les élites. Pour faire image, je me dis souvent, on vit à peu près comme Louis XIV, sauf qu'on a la télé et tout ça, donc c'est tout technique. Mais finalement, quand on voit les histoires qu'on nous a apprises sur les aristocrates, les maîtresses, Madame de Boisselle de la Vallière, etc., au fond...
C'est pas bien différent aujourd'hui?
Non, on a démocratisé beaucoup ces valeurs. Les deux maisons, le rapport à la campagne, le voyage, les relations personnelles importantes, tout ça, au fond, les élites l'avaient, mais le peuple l'avait pas.
Déjà au Moyen-Âge, les vacances, ça existait?
On peut pas dire comme ça. On vit chaque époque dans un imaginaire. Nous, on vit dans cet imaginaire des vacances, on va y revenir, qu'on a construit depuis 3-4 siècles. Avant, on vivait dans un imaginaire religieux. Il y a encore des gens aujourd'hui, ils se déplacent, qui vont à la Mecque, il y en a qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome. Donc, chaque époque a un imaginaire, une représentation du temps et de l'espace. Bon, nous, on est dans ce monde du tourisme, des vacances, de la retraite, c'est au fond du temps libre, comme structurant les sociétés modernes. C'est une invention du 18e, mais qui s'est généralisée au 20e.
Quand est-ce que le mot vacances apparaît?
Alors, le mot vacances, ça tient, c'est une notion d'espace, c'est-à-dire, ça vient de vide, vacant, un lieu vide. En réalité, c'était l'avenir des tribunaux. Parce que, à l'époque, dans les sociétés agricoles, au 17e, 18e, évidemment, au moment des récoltes, tout le monde allait au champ. Les enseignants, les enfants, et puis les juges. Parce qu'ils voulaient surveiller qu'on rentrait bien leurs récoltes et qu'on les volait pas. Donc personne ne faisait de procès parce que c'était évidemment pas le moment. Donc les tribunaux étaient vacants. Et puis après, c'est passé à l'école pour la même raison, y compris les enseignants. Le travail des enseignants dans les champs était très important dans leurs revenus. Ils n'étaient payés que 10 mois par an.
Donc c'était une période de vide de l'activité habituelle, mais c'était pas pour autant des vacances au sens où
pas
on l'entend aujourd'hui.
C'était des périodes de récolte. Ouais. L'origine, c'est pour ça que les vacances sont en juillet-août, c'est au moment du blé, puis des vendanges, ça dépend un peu les régions. En gros, c'est les moissons, quoi. Là, on a besoin d'énormément de main-d'œuvre, et où effectivement, tout le monde va s'y mettre. Les femmes, les enfants, les enseignants, les juges, etc. Donc au départ, ça n'a rien de repos. Le repos, c'est une notion de la fin du 19e, mais c'est parce qu'il y a des classes sociales qui ne travaillaient pas. Si vous voulez, la grosse différence, c'est que nous, en principe, j'allais dire, on travaille tous, en tout cas, on espère le faire. Et, y compris les dames, puisque 80% des femmes sont salariées. On était dans des sociétés où il y avait des rentiers qui ne travaillaient pas, y compris beaucoup de religieux, je ne sais pas compter religieux, mais enfin, ils ne travaillaient pas, beaucoup d'aristocrates, et au 19e, beaucoup de rentiers. La rentor, le franc or, on a tous appris à l'école le franc or, etc.
Donc eux, ils avaient des vacances perpétuelles, finalement.
Ils ne travaillaient pas. Et puis il y a les autres qui travaillaient tout le temps. C'est pour ça qu'en gros, au 19e, il faut quand même se rappeler qu'on travaille 12 heures par jour, le dimanche n'est férié que depuis 1906. Il y a au 19e des gens qui ont travaillé 7 jours par semaine, 12 heures par jour, quasiment de 10 ans à leur mort. C'était pas tout le monde, mais c'était quand même beaucoup de gens, notamment dans le développement industriel. Donc si vous voulez, c'était cette société où il n'y avait pas l'alternance. Et puis, les vacances, ça correspond à la guerre, après la guerre de 14, on a inventé au fond l'alternance entre le salarié et le repos. C'est une idée du 20e siècle.
Et à partir de quand on a commencé, notamment, à l'école, à dire que les vacances devaient exister pour les élèves, pour le bienfait des élèves?
Et
pas seulement pour travailler au champ.
1880,
quoi.
Mais regardez, par exemple, sous Napoléon, tout ça, les élèves ne sortaient pas pendant les vacances. On considérait qu'ils n'avaient pas à sortir. La bataille pour que les enfants arrêtent d'être... Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui allait au lycée, vous me direz. Mais enfin, le modèle, c'était le modèle de l'armée. Donc, on était dans le lycée. Il n'y avait pas de vacances. On ne sortait pas. Et donc, si vous voulez, la sortie, c'est la fin du 19e, où au fond, commence à émerger l'idée de repos. Et l'idée, si vous voulez, que le repos est positif pour la production. C'est-à-dire que, au fond, un travailleur qui ne se reposerait jamais ne produirait pas. Et très curieusement, vous voyez, par exemple, les militaires se sont beaucoup battus parce que les enfants avaient des mains blessées. il n'y avait pas assez de soins du corps, etc. Et donc, ils avaient un problème pour le doigt sur le fusil, notamment. Parce qu'effectivement, les mains étaient très blessées.
Ils récupéraient des soldats pas assez efficaces, c'est
absolument.
Ça
absolument. Et les associations catholiques, parce qu'on ne se mariait pas. Parce que comme on n'avait pas de vacances, quand on était monté de la Creuse à Paris, et on se mettait à la colle. Mais on n'allait pas reprendre une semaine pour aller présenter la promise. Alors, on n'allait pas se marier sans l'avoir présentée. Donc c'est marrant de voir qu'au départ, c'est des gens dit il faut s'arrêter au moins une semaine pour ces raisons. Puis petit à petit, c'est devenu nos congés payés.
Qui sont les tout premiers vacanciers français? On vous les présente dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, on vous raconte l'histoire des vacances avec le sociologue Jean Viard qui publie Le Triomphe d'une utopie aux éditions de l'Aube. Question posée par Sidonie juste avant la coupure pub. Qui sont les tout premiers touristes français? Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, des riches, forcément.
Et les touristes, c'était des rentiers. C'est eux qui ont inventé nos lieux qu'on aime. C'est eux qui ont inventé la Côte d'Azur, c'est eux qui ont inventé les stations touristiques, c'est eux qui ont inventé de Coubertin, d'une certaine façon, dans le sport. Mmh. C'est eux qui ont inventé la natation. On se baignait pas. La plage, au fond, dans les milliers de villes, servait de salle de bain aux ouvriers. Donc la plage n'était pas du tout un lieu ludique. Et puis on avait peur de l'eau. On avait l'impression, vous savez, on racontait qu'il y avait des monstres dans l'eau qui allaient vous tirer par les pieds. Des souvent, les marins, ça.
Ah, c'est pas vrai? Parce que moi, j'y crois encore.
Ben, vous avez, ben, écoutez, essayez, hein. Il y a peut-être des monstres qui vous tirent par les pieds, mais je sais pas si c'est des vrais monstres. Et donc, si vous voulez, donc, il y a là toute une époque où, au fond, on n'avait pas ces rapports ludiques. Le ski. Il y a des, bien évidemment, le ski existait, mais le ski pour se déplacer en montagne. Si
c'est vrai qu'on s'amusait moins à une certaine époque, le jeu, le plaisir.
Le jeu était mélangé loisir. Au travail. Quand on dit, par exemple, que les gens travaillaient 2 heures par jour, il y avait les carnavals. Il y avait toute cette façon de se moquer des élites sociales qu'on trouve encore à Venise. Donc, il y avait,
Charivari, tout ça, ouais.
Des lieux de moquerie, de distance, partout, dans toutes les sociétés. Mais effectivement, c'était pas les mêmes, quoi. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et surtout, nous, on a concentré le travail. On travaille plus que 35 ou 40 heures par semaine, mais c'est un travail extrêmement intensif. Et à la limite, à l'intérieur du travail, il y a plus de jeu. Alors qu'il y avait beaucoup de jeux, évidemment, forcément. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que c'est...
C'est-à-dire, il y avait beaucoup de jeux, pardon, je vous interromps.
Mais il y avait des moments ludiques, il y avait des moments, si vous voulez, pendant les quand on fait les foins, de temps en temps, on s'arrête. Mm-hmm. Je veux dire, on a tous des tableaux de Millet, enfin, ces choses. Bon, c'est pas pour dire qu'on foutait rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on travaillait beaucoup plus que nous.
En temps, mais pas forcément en productivité.
Non, pas en productivité, ouais. Mais en dureté. Est-ce que nous, on aurait résisté à une tranchée de 14, quoi? Je veux dire, c'est évidemment que non. Je veux dire, quand on voit ce que les gens ont pu survivre à l'époque, les jeunes des campagnes en 14, nous, attendez, au bout d'une semaine, on serait tous à plat ventre. Donc, on est là dans des hommes, des corps durs, des sociétés qui sont des sociétés où le corps est un outil.
Les femmes aussi, les femmes qui, quand elles sont enceintes, continuent de travailler.
Le taux de mortalité des femmes, par exemple, si vous voulez, oui, avant 14, il y a plus de vieux monsieur que de vieilles dames. On est dans des sociétés où les femmes meurent en couche massivement jusqu'à la guerre de 14. Donc, c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, il y avait des vieilles filles. La vieille fille, c'est celle qui avait fait un choix qui n'était pas forcément heureux, mais qui était long. C'était la vie longue contre la vie de couple. Vous voyez, toutes ces choses, c'est amusant. Alors bon, moi je suis pas historien, ces choses je les cherche chez les historiens, mais c'est intéressant de se représenter comment les gens vivaient, qu'est-ce qui se racontait, si vous voulez. Alors bien sûr, il y avait les fêtes votives, par exemple, tous les ans, il y avait les fêtes votives. Mais vous prenez Guillaume, par exemple, qui a écrit un livre sur la paysannerie. Son père lui avait donné un dimanche pour trouver une épouse. Un dimanche. Il n'avait pas à travailler, il savait qu'il avait la journée pour trouver une femme.
Donc, il n'y avait pas les applications sur Internet.
Sans site Internet, sans mythique.
C'est un peu caricatural, mais c'est ça le temps continu des sociétés paysannes de la fin du 19e, début 20e.
Et pour revenir aux vacances et à ces stations qu'on connaît tous et qui nous font rêver encore aujourd'hui, il n'y avait que des touristes ou des rentiers français ou ils venaient d'un peu partout
en
Europe?
Non, c'est européen. Si vous voulez, la France était le cœur du tourisme européen au 19e. Pour des raisons à la fois qui tiennent à l'histoire, c'est-à-dire que nous, nos aristocrates avaient perdu le pouvoir politique en 89, mais en 1830, ils ont restauré leurs avantages financiers. Donc, ils avaient de l'argent et ils n'avaient rien à faire. Donc, ils ont développé ce qu'ils savaient faire très bien, la danse, le poids, la promenade, etc. Donc, ça, c'est le cœur. C'est aussi parce que le français était la langue des élites européennes. Les grands-ducs valsaient à Nice, si vous voulez. D'ailleurs, Villefranche était un grand lieu. Regardez, à Nice, il y a encore une église russe. Et quand on lit Proust, quand on lit Stendhal, etc., on voit bien cette société rentière avec tout l'enjeu sur les eaux, la santé. Souvent, les femmes allaient aux eaux, les messieurs restaient à Paris. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez...
Les eaux, stations thermales. Hein,
stations thermales. Non, mais c'était...
Mais c'était un entre-soi. On était...
C'était un entre-soi, mais c'est pour ça que je disais
Versailles. On était entre gens argentés, et voilà.
Tout à fait. Argentés, ou en tout cas cultivés, ou qui faisaient semblant de l'être. Il y avait aussi des gigolos, etc., évidemment. Mais le but, quand même, c'était une société à part, une société bourgeoise, rentière, en réalité. Pas forcément, d'ailleurs, les industriels envoyaient souvent leurs femmes, mais eux-mêmes, souvent, ils dirigeaient leurs usines. Le monde du travail industriel était continu. Alors bon, et puis, si vous voulez, au 19e, il y a eu les pharmaciens, les médecins, les avocats, les professions supérieures. Ça s'est petit à petit développé aux chefs d'entreprise, du coup, aux équipes de direction, parce que les patrons n'étaient pas là, les autres non plus. Vous voyez, donc, il y a un phénomène de démocratisation des vacances dans ces milieux-là.
C'est-à-dire qu'il y a plein de milieux qui se disent, mais pourquoi pas nous ?
Petit à petit.
Pourquoi nous, on partirait pas en vacances ?
Même qu'il y a des patrons qui étaient modernistes, sur le mode anglais, qui avaient compris qu'un salarié qui se repose est plus productif. Donc, la loi de 36, si vous voulez, elle fait qu'instituer une règle qui existait à un certain nombre d'endroits. Mais évidemment, pas dans les petites entreprises, pas dans les milieux archaïques, etc. Et c'est une chose qui n'a jamais été remise en cause, y compris par Vichy, qui pourtant n'était pas vraiment favorable à ces valeurs.
Alors justement, 36, les congés payés, le Front Populaire, on va en parler dans le détail dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
J'étais en vacances, je suis crevé, dis donc. Je sais pas qui c'est qui a dit partir, c'est crever un pneu, mais il avait raison.
RTL.
Pour nous, pour les vacances, il y a un pays qui est bien, qui a gardé ses traditions, c'est la Suisse. Maintenant, on fait la gymnastique à la radio. Levez, baissez, levez, baissez. Bon, maintenant, on va faire l'autre paupière.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les vacances selon Coluche, c'est sympa, c'est reposant. Hein.
Surtout en Suisse. Ouais.
Attention, on ouvre la bouche pour parler dans le micro. Alors, qui doit-on remercier pour nos congés payés? C'est la question qu'on se pose ce soir. Et la question aussi de l'histoire des vacances. On en parle avec le sociologue Jean Viard. Est-ce qu'avec la notion de vacances naît aussi la notion de surmenage, de burn-out?
Burn-out, c'est une idée récente. Hein.
Le mot est récent, oui.
Le mot est récent.
Le mot est récent. Non, mais je dis, l'idée de repos, c'est fin 19e. L'idée qu'on est fatigué. Mais c'est aussi parce qu'il faut dire une chose, c'est que la Révolution française a supprimé toutes les fêtes religieuses. Et donc, avant, le dimanche, on se reposait pas. Il y avait plein de fêtes religieuses. Et une des grandes décisions de la Révolution française, nous, on n'en voit que l'aspect positif. C'est une révolution, on va dire, bourgeoise, pour prendre un mot. Et donc, les gens ont travaillé tout le temps. On a supprimé les dimanches fériés, les jours fériés. Donc, avant, ben, on se reposait parce que c'était dimanche.
Est-ce qu'on savait qu'on était surmené avant?
Non, parce que justement, c'était le jour de Dieu. Donc, on donnait la journée à Dieu. Mais dans la tête, on se reposait de fête parce qu'on travaillait pas. Mais l'idée, c'était qu'on donnait la journée à Dieu. Si vous voulez, la propriété du temps est un enjeu majeur des sociétés. On ne va pas s'éloigner là-dessus beaucoup. Mais dans le monde d'aujourd'hui aussi, il y a plein de gens pour qui le temps appartient à Dieu. Ce n'est pas leur temps. Nous, on s'est approprié le temps dans le monde moderne. Il est à moi. Donc, j'en fais ce que je veux.
Est-ce que ça veut dire que ce sont les vacances qui ont créé le surmenage, finalement?
Non, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas les vacances qui ont créé le surmenage. Mais si vous voulez, ce qui est clair, c'est que nous, on est productifs comme des fous en travaillant 1607 heures par an. Vous savez, on travaille 63 000 heures pour avoir droit à la retraite. On vit 700 000 heures. Donc, ça veut dire que ces 63 000 heures, c'est disons 10% de la vie pour aller vite, c'est une intensité absolument extraordinaire. Alors qu'on travaillait 200 000 heures en 1900 dans des vies qui duraient que 500 000 heures. Donc quand vous dormiez 200 000 heures, vous travailliez 200 000 heures,
il
restait 100 000 heures pour s'aimer, militer et mourir. Nous, on travaille 70 000 heures, bac plus 2, c'est 30 000 heures d'études, on dort 3 heures de moins par jour que nos grands-parents, donc on dort toujours autant mais plus d'années. Il nous reste 400 000 heures quand on a fini de dormir, de travailler et d'étudier.
C'est un peu inquiétant, vos chiffres comme ça, là. Notre vie sous forme d'heures, tout d'un coup, c'est bizarre.
Pour se montrer que le temps libre est le fondement des sociétés modernes. C'est là que se construit le lien social, les rapports entre les gens, les amours, etc. Le travail reste très important, je suis un défenseur du travail, hein. Mais le travail, c'est que 10% de la vie.
Oui. Et avec une place de la religion, vous citez souvent la religion dans votre livre Le Triomphe d'une Utopie, publié aux éditions de l'Aube, vous faites ce lien. Est-ce qu'il y a, par exemple, pour prendre des exemples concrets, des stations balnéaires qui sont plus protestantes que catholiques, par exemple, qui sont liées à une vision des vacances, de la nature, de la villégiature, liées à une religion.
Dans les vacances, il y a des stratégies politiques. Par exemple, les Russes venaient à Nice parce qu'ils rêvaient de faire une base militaire dans la baie de Villefranche. Donc, donc là, il y avait un lien. Les protestants ont aimé la nature sauvage. C'est le protestantisme qui a amené ça à nos valeurs. Les catholiques n'aimaient pas trop la nature. D'ailleurs, vous entrez dans une église, il y a des tableaux, il y a des sculptures, tout ça. On est devant l'œuvre d'art. Vous entrez dans un temple, c'est blanc. Parce que les protestants ont dit la preuve de l'existence de Dieu, c'est la beauté de l'arbre, la beauté de la source, la beauté de la montagne. Donc ils ont valorisé l'œuvre de Dieu comme preuve de son existence.
Et donc ils ont cherché des lieux
tout à fait
magnifiques.
La Côte d'Azur, par exemple, ouais. C'est des Anglais. Mais l'écologie aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est le culte de la nature, dans cette passion culte, il n'y a pas que ça dans l'écologie, mais ça vient largement du protestantisme. C'est eux qui ont fait le premier parc à Yellowstone en 1872, par exemple. L'idée de prendre un grand territoire et de décider qu'on n'y fera rien, parce qu'au fond, on a vu l'œuvre de Dieu quasiment à l'origine, si on peut dire. Enfin, dans son état d'origine. Bon, on a oublié qu'on avait supprimé les Indiens. Enfin, bon, une fois qu'on a enlevé les Indiens, si on peut dire, c'était l'état d'origine.
Ça nous envoie vers notre prochain thème avec Jean-Pierre Dutilleux qui vient d'arriver et qui va rentrer dans le studio RTL tout à l'heure, puisqu'on va parler des peuples premiers.
Qui sont les premiers salariés, Jean-Pierre, à bénéficier, à avoir des congés payés en France, les tout premiers?
Il y en a plusieurs, mais on cite souvent le métro de Paris, quoi. Parce que quand on a fait le métro en 1900, on s'est dit, c'est quand même, ils vont jamais voir le soleil, quoi. Et donc, on leur a donné 15 jours, je crois, ou 10 jours, je ne sais plus. C'était vraiment cette idée que, bon, là, c'était pas possible, quoi. Mais c'est aussi, c'était une entreprise très moderne. Donc, ils avaient une gestion, si on peut dire, du personnel. C'est un mot à l'époque qu'on employait sans doute pas, mais qui était beaucoup en avance. Et c'est tout le problème des gens qui travaillent les mines, par exemple. C'était des vies terribles, parce que c'est vrai que vous ne voyez quasiment jamais le soleil.
Donc, les mineurs aussi ont eu leur congé payé assez rapidement.
Plus tard. Vous savez que les conflits dans les mines ont été durs jusqu'aux années 50.
Il y a eu un effet domino, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une profession l'obtenait, puis une autre, les fonctionnaires, puis...
Bien sûr, il y a eu des effets d'imitation, des effets domino, etc., jusqu'à ce qu'effectivement ça se généralise. Donc c'est toujours pareil, quand on généralise, c'est aussi une façon de mettre en ordre. Parce que décider 15 jours de vacances du 1er au 15 août, comme on l'a fait en 36, ça veut dire que c'est à ce moment-là, c'est tout le monde en même temps, etc. Les Chinois ont fait la même chose il y a quelques années, sauf que quand vous mettez tous les Chinois en congé en même temps, les autoroutes sont bloquées. Donc c'est pour ça que...
Non, mais c'est le même problème. Et la planète s'arrête presque.
Voilà, non, mais c'est marrant de voir comment nos modèles politiques, après, par exemple en Chine, ça fonctionne de la même manière. Et après, les gens ont pris leur pouvoir sur leur temps. Aujourd'hui, on fait beaucoup de petits séjours, on coupe, etc. Mais vous savez, au Club Med, au début, il fallait y aller 2 mois. Parce que il fallait des séjours le plus court, c'était 2 mois. Parce qu'on considérait que c'était pour se rencontrer qu'on partait en vacances. On allait vivre ensemble quelque chose avec des gens qu'on connaissait pas, se parler, se rencontrer, et c'était des lieux. Vous voyez, c'est intéressant de se dire, c'est aujourd'hui, on part 3-4 jours, plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est pas du tout... Et nous, on cherche pas à se rencontrer, puisqu'on part avec des gens qu'on connaît déjà. Donc, c'est une autre vision.
Et donc ça, ça a évolué. Entre quoi, les années, là, on est plus récent,
les années 50 et aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que la famille n'est plus la même. La famille d'après-guerre est une famille hiérarchique, c'était une famille pas toujours très amusante. Nous, on a des familles tribus qui sont extrêmement amusantes, où il y a des ex, il y a des pas mariés. Il y a un chiffre que je trouve fascinant, c'est que 57% des bébés naissent en mariage. Alors que c'était jamais plus de 10%, sauf en 1918 et en 45. C'est-à-dire que la structure anthropologique la plus fondamentale est devenue complètement souple. D'abord, elle s'est cassée, puis elle s'est reconstruite. Mais tous les autres temps, c'est pareil. Ce chiffre-là est marrant, mais on se dit, oui, c'est vrai, il a 57% des bébés en mariage. Alors, c'est le fondement des...
Ce monde est fou, Jean Viard. On continue de raconter l'histoire des vacances.
Génial.
Il est génial. Dans un instant, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et j'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. Sur une compagnie qui s'appelle Charter, hein, t'en as pour ton pognon, 45 heures de vol.
RTL.
Paris, Bruxelles, Bruxelles, Londres, Londres, Barcelone, Barcelone, Los Angeles, Grenoble, Grenoble, Koumak.
Jusqu'à 22h.
Et quand t'arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu dors. Forcément, faut que tu récupères.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Patrick Timsit, lui aussi inspiré par les vacances ce soir dans la curiosité. On vous raconte comment elles ont pris autant de place dans nos vies grâce à Jean Viard, chercheur, sociologue, qui publie Le triomphe d'une utopie aux éditions de l'Aube. Encore un mot de 1936, les congés payés. Dans votre livre, vous expliquez que les nouveaux vacanciers, ils n'ont pas le mode d'emploi. C'est ça, ils sont un peu perdus.
Mais c'est-à-dire que si vous voulez, dans les milieux populaires, ne pas travailler, c'était être malade ou être chômeur. En gros, il y avait deux catégories de temps vide, quoi. Les gens, ce qu'ils voulaient, c'était les 40 heures. Et les conventions collectives. C'était ça, 36. Deux enjeux majeurs de protection. Et au fond, par exemple, je vais donner une anecdote. À Strasbourg, quand on a donné les congés payés, l'évêque s'est rendu réuni avec les syndicats. Ils se sont dit, mais comment on va faire? Les gens vont avoir peur. Et ils ont décidé de tous monter à la Schlourte, avec devant le drapeau du syndicat et l'évêque. Ils ont fait une immense marche dans la montagne pour donner du sens, du contenu, des pratiques, des gestes, parce qu'il n'y avait pas de gestes, aller à la mer, faire du vélo, enfin, je sais pas, des choses qu'on fait pendant les vacances.
Oui, on a tous vu des documentaires, des films d'archives, on a l'impression que tout le monde est sur son vélo et que
oui,
ça a été très simple.
Comme Le Figaro qui a fait sa une avec des ouvriers qui mangeaient des saucissons sur la place de Nice.
Alors c'était pas la déferlante comme ça sur la Nationale 7, tout le monde sur...
Il n'y avait pas de Nationale 7,
déjà,
pas de voiture,
elle n'était pas là.
Il n'y avait quasiment pas de voiture, il n'y a quasiment pas eu de déferlante. quand les gens sont un peu plus allés en bord de Marne, pour ce qui concerne les Parisiens, ils ont fait plusieurs dimanches. La première façon d'utiliser les congés payés, ça a été de faire dimanche plusieurs jours de suite. Donc on faisait ce qu'on fait le dimanche, quoi. Aller en bord de Marne, un métier à la belle mer, enfin des choses qu'on fait le dimanche.
Est-ce que c'est là que l'ennui est arrivé avec l'apparition des vacances, Jean-Yves?
L'ennui a toujours dû être là. Moi, je ne crois pas que les vacances aient inventé l'ennui. Mais si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que les vacances, c'est un rituel, comme tous les rituels. C'est pour ça que je compare aux religions, sans vouloir être injurieux avec les religions. Hein. C'est un rituel, c'est une idée de l'autre.
Un apprentissage.
Un apprentissage, c'est aussi une réflexion sur soi. Parce que les vacances, je me raconte que je vais partir, je les vis et je reviens. Et un des grands enjeux des vacances, c'est quand on revient et qu'on regarde sa maison, qu'on regarde sa vie, on se dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est génial?
Ça change les humains, les vacances?
Mais bien sûr, ça marque le temps. C'est votre marqueur. Vous vous rappelez ce que vous avez fait en 99? Je ne sais pas si vous étiez né, mais enfin, pendant une année plus.
Aussi, quand même.
Mais voyez.
De justesse.
Les marqueurs, c'est l'année où vous avez, je ne sais pas, la première fois où vous êtes allé à New York, la première fois où vous êtes tout simplement allé en Bretagne, ça, chacun a ça. Et donc, vous pouvez marquer votre temps, vous raconter une histoire.
Et puis Jean-Vier, c'est un match aussi, les vacances aujourd'hui. Il faut réussir ses vacances. Oui, on a l'impression que c'est une espèce
ça,
de
diktat. Ça, c'est un enjeu majeur parce que la plupart... Attendez, un tiers des Français partent pas.
Bien sûr.
Un tiers des Français part 5 ou 6 fois et un tiers part qu'une fois. En gros, pour aller vite avec les chiffres. Donc ceux qui partent qu'une fois, ils n'ont pas intérêt à les rater, quoi. Parce qu'ils n'ont pas une deuxième chance. Donc ça, c'est d'ailleurs leur rêve, c'est souvent de repartir 3 jours sans les enfants. Quand dans les milieux, les couches moyennes, on va dire, ce qu'on dit. Bah, leur rêve, c'est à contre-saison, un gros week-end pont sans les enfants, c'est le top. Bon. Donc il ne faut pas les rater, parce qu'après, on va devoir les raconter. Et après, évidemment, comme aujourd'hui, on fait comme
ça. Ou les publier, comme aujourd'hui.
Tout à fait. Oui, ou les publier sur le net. Mais on oublie que plein de gens ne partent pas. Dans les classes, dans les quartiers, la majorité des enfants souvent ne sont pas partis, mais les enseignants, ils sont tous partis. Donc l'idée, il faut toujours dire qu'il y a plein de gens qui ne partent pas en vacances. Parce que quand les enfants dans les quartiers, souvent, ils racontent, quand on leur fait un devoir, les pubs qu'ils ont vus à la télé. Parce qu'ils n'ont pas fait de vacances. Il y a des millions, il y a des centaines de milliers d'enfants qui
partent
pas en vacances.
L'éternel devoir de rentrer, racontez-nous vos vacances.
Bien sûr. Ouais. Donc la bataille n'est pas terminée.
Mais le tourisme de masse, les vacances de masse, c'est quand les années 50, 60, ça démarre.
Les années 60, 70, quoi. Ouais. Même encore. Mais si vous voulez, rappelez-vous quand sous De Gaulle, on allongeait tous les ans l'autoroute. Et une année, elle s'arrêtait à Montélimar. Puis l'année d'après, 2-3 ans après, on sortait à Sénas. On traversait Aix, par exemple, c'était un embouteillage monstrueux l'été, parce qu'on avait la sortie de Sénas pour aller sur la Côte d'Azur. Mais ça, c'est les années 60-70, c'est pas le Moyen-Âge. Hein.
Et donc, moi, j'étais tout gamin, j'ai le souvenir de la descente pour aller en Corse, dans la déesse familiale, c'était long.
Voilà.
Ça tanguait un peu.
Voilà, tout à fait. Non, mais si vous voulez, c'est ce monde-là qui s'est construit dans les années 60-70 de façon massive. Et du coup, ça a complètement changé notre territoire, parce que les régions de vacances sont les plus attractives, les plus belles, celles qu'on a le plus valorisées. Et donc aujourd'hui, c'est celle qui se peuple. Il y a des millions de gens qui vont s'installer dans les régions.
Ça veut dire que les vacances ont dépeuplé aussi une partie de la France finalement? Parce qu'elles ont donné le goût aux Français à d'autres régions?
Mais quand vous regardez le nord et le sud de la France, les grandes régions industrielles du nord, bien sûr, elles ont une crise industrielle. L'industrie n'est plus ce qu'elle était, les mines n'existent plus. Mais en plus, les gens s'en vont. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous prenez votre retraite, 48% des Français qui prennent leur retraite rêvent de déménager. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il leur reste 20 ans, c'est 20 ans de grandes vacances. Donc ils vont aller où? S'ils ont les moyens, ils vont aller où là où ils sont nés, s'ils sont tickets, sont nés quelque part, que c'est précis, soit là où ils ont été en vacances. Il y a 50 000, par exemple, bourgeois qui quittent Paris tous les ans pour s'installer en résidence secondaire. C'est pas des petits nombres, c'est normal. Au fond, c'est parce que l'imaginaire des vacances a complètement transformé l'idée de la retraite.
Jean-Vier, est-ce que les vacances, c'est aussi un moment de création? Est-ce qu'on est créatif en vacances et est-ce que ça a un impact à moyen terme ou à long terme
dans
le quotidien des Français?
Un moment d'extraordinaire liberté.
Ouais.
Et en plus, dans nos couples plus fragiles, puisqu'on est biactif, etc., c'est un moment où on ressoude les couples, les week-ends et les
vacances. Biactif, on est deux à travailler dans le couple, c'est ça? D'accord.
Oui,
je traduis les termes de notre sociologue Jean-Yves.
80% des femmes sont salariées pour le dire comme ça et pour donner un chiffre. Donc, on est dans ce genre
biactif.
De situation. Biactif. Voilà. C'est deux personnes actives. Non. Voilà. Bon, passons. Donc, si vous voulez, ça, c'est vrai. Donc,
cette émission est une émission biactive, par exemple.
Vous êtes tout à fait moderne de ce point de vue-là. Non, mais si vous voulez, donc les vacances, c'est effectivement un lieu d'alternance, de réflexion, de rencontre et évidemment d'apprentissage. Où est-ce que vous avez appris à vous servir d'Internet? Où est-ce que vous avez appris à vous servir de téléphone portable? C'est dans les vacances.
Où est-ce qu'on a appris à faire griller des entrecôtes sur le barbecue?
C'est moins utile pour votre patron. Mais
c'est vrai.
Retournez l'argument. Qu'est-ce que vaudrait un salarié qui, depuis 10 ans, n'aurait pas regardé la télé, ne serait pas parti en vacances, mais il vivrait dans un monde qui n'existe plus? les couleurs, c'est plus les mêmes, les formes, les gestes, etc. Donc, si vous voulez, les vacances, c'est un énorme laboratoire d'apprentissage du changement social.
Et pourtant, il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce que votre livre s'appelle « J'en viens, le triomphe d'une utopie » aux éditions de l'Aube. Et puis finalement, vous dites qu'il y a plein d'enfants et plein de gens qui partent pas en vacances.
Mais
en France,
le boulot n'est pas fini, c'est toujours pareil. Il y a 60% des gens qui partent, il y en avait 10 ou 15%. On peut voir le mouvement. Ce qui est vrai, c'est que depuis 20 ou 30 ans, ça s'est un peu arrêté. Il y a 10% des gens qui ont horreur de voyager, c'est leur droit absolu. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui vont s'installer dans les régions de vacances. Alors après, ils partent moins, mais ils accueillent. Le premier lieu d'accueil en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'intrafamilial des gens du Nord qui sont venus s'installer.
Ça veut dire que maintenant, les Français partent un peu moins hors des frontières du pays.
Non.
On va chez les uns et les autres, c'est ça ?
Bien sûr, sauf que quand, après-guerre, vous allez dans la famille à la campagne, c'est que vous n'aviez pas pu vous payer des vacances, quoi. On disait, tu vas chez la mamie. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. 70% des gens partent en famille avec des copains. Les vacances, c'est pour ça que c'est c'est l'affection. C'est la famille, c'est complètement transformé. C'est le cœur des sociétés modernes. Heureusement qu'il y a la famille comme lieu de solidarité, d'affection, etc. De tolérance aussi. Les familles sont devenues très tolérantes. Et donc, le cœur des vacances, c'est quand même d'abord ça. Les vacances transhumantes, celles de l'été. Oui. C'est pas pareil que le voyage de 4 jours à New York que vous avez fait une ou deux fois dans votre vie si vous appartenez aux catégories supérieures.
Et vous disiez l'autoroute qui avance au fur et à mesure des années pour aller vers le sud. Et les vacances, ça a aussi rétréci la France. C'est-à-dire que les destinations sont de plus en plus courtes, donc plus proches.
Le problème, c'est qu'on va en vacances à côté de là où on habite plutôt. C'est-à-dire que si vous habitez à Bordeaux, vous n'allez pas souvent aller en Méditerranée. Si vous habitez à Marseille, vous n'irez pas en Bretagne. Mmh. On est tous rationnels. On va d'abord là où. Si on veut l'été, on va à la mer, massivement. On va à la mer d'abord, à pas très loin de chez soi. Le petit dépaysement, les 200-300 km. Alors le problème des Parisiens, c'est que vous êtes un peu malheureux parce que vous n'avez ni la mer, ni la montagne. Donc à vous entendre, on croirait que tout le monde va loin, etc. Mmh. Non, vous allez loin. Mais les Bretons du Nord.
Ne vous inquiétez pas, vous avez une Bretonne. Voilà. Vous avez
Bordelais, du Nord, par exemple, vont souvent en Bretagne du Sud. Les Bordelais vont souvent à Arcachon. Oui. Donc, parce qu'au fond, c'est une pratique. La Cano, bien sûr. Alors que les Marseillais vont aller sur la Côte Bleue, ou vont avoir des villas à La Ciotat, etc. Donc, si vous voulez, et puis après, il y a le nord de l'Europe, qui lui, évidemment, n'a pas la Méditerranée. Le cœur du tourisme, c'est quand même la Méditerranée. Mmh. Ou la Californie, enfin, dans les autres. Mais d'abord, la Méditerranée. Donc, forcément, tout le monde descend vers là. Nous, on a la chance que c'est chez nous. Donc forcément, on a tendance à moins aller à l'extérieur. C'est pas forcément qu'on soit plus bas du chapeau, mais c'est qu'effectivement, on a des équipements, si on peut dire, de proximité qui sont exceptionnels aussi.
Vous êtes d'où, vous ?
Moi, je suis Marseillais.
Et vous partez en vacances ?
En Bretagne.
Très bien. On aura tout vu.
Mais vous travaillez quand vous êtes en vacances.
Justement, je vais à un endroit en vacances tous les ans, tranquille. La mer est un peu froide. J'emmène pas mon ordinateur et donc je me débranche.
Vous ne prenez pas des notes en regardant vos voisins.
En tout cas, on peut vous lire sur la plage. Pourquoi pas ? Le triomphe d'une utopie aux éditions de l'Aude. Merci infiniment, Jean-Vierre. C'était passionnant.
Vous écoutez RTL.